Roger, I'm off.
Yeah, more clap.
Gardeau, on est éteint, on est pratiquement en position.
Ok, parfait.
Il y a 3 au contact.
Minimum 3.
3 minutes.
Il va en avoir encore 5 à attaquer.
5. 26 minimum à poser.
Mini 26.
3 demi.
Demi 3.
André. Officier de marine marchande, puis pilote
au 69, le premier porte-container français a été commandé, c'était le Kangourou, hein, et qui était construit à La Ciotat, et qui est sorti donc même avant les Z, je crois bien, peut-être même avant les Z, suivi après du Korrigan. Alors Korrigan, c'était une sacrée bécane, ça. Alors là, ça, c'était un bateau extraordinaire à l'époque. Hein. Les bateaux, c'était 150 mètres, ça déplaçait 15 000 tonnes à tout casser. Puis ce machin-là qui arrivait 300 mètres de long, 2800 containers à l'époque, ça paraît peu, mais enfin, c'était surtout un bateau qui a 80 000 chevaux et qui traversait le monde à fond la caisse. Quoi.
On recule légèrement, hein, il y aura 400 mètres avancés au final. Il faut qu'ils envoient la garde, ils mettent un temps. Bon, tiens bon.
Tiens bon, toi.
Bon, un quart.
Meilleur un quart,
toi. Encore 5 mètres. 3 mètres.
Est-ce que le conteneur a changé votre manière de travailler?
Jean-Pierre, ah bah oui, directeur du service client France-Europe à la CMACGM.
Alors, ça a complètement standardisé et centralisé les opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, transporter un conteneur, prendre un conteneur de whisky ou un conteneur de billets de banque, un conteneur de plumes ou un conteneur de plomb, c'est pareil, c'est une boîte qu'on déplace. Donc, Une fois que c'est rodé dans le cheminement du conteneur, tous les conteneurs se transportent de la même façon. C'est le même principe, c'est juste des boîtes à... Alors il n'y a pas les contraintes liées au poids du machin, à l'encombrement, à la fragilité, aux pointes de charge, à la grue qui doit pouvoir soulever le truc. C'est une simplification, une massification des transports et une standardisation complète. Alors, les anciens, là je ne me considère pas comme un ancien, mais les anciens disent que bon, ça retirait toute l'âme du transport maritime. Quoi. Parce que ce sont maintenant des autobus, les porte-conteneurs sont des autobus, avec des commandants qui n'ont qu'une seule instruction, c'est d'aller le plus vite possible et d'être à l'heure au bon endroit. Les bateaux sont prévus à l'heure précise. Comme les autobus, hein. Donc il faut qu'ils soient dans le port X à telle heure, tel jour, heure impérative parce qu'ils ont leur priorité d'accostage, qu'il faut qu'ils aillent le plus vite possible à mettre leur Lego à terre et que, en suivant les plans qui leur sont donnés par Marseille ou par le head office, hein, le quartier général, de l'ordre qui a fait tous les plans et puis qui leur dit vous chargez, donc ils chargent, puis ils repartent et puis ils vont au port suivant, ils font la même chose. Ça a retiré tout l'intérêt qu'avaient les anciens marins qui avaient vraiment des expéditions maritimes. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a toujours les tempêtes, les accidents, les ennuis, mais c'est plus tout à fait le même style. C'est une évolution normale, hein. faut pas non plus pleurer sur le passé.
La 3, tu l'as rien ?
Oui.
Ok, parfait, ben, la 3, c'est terminé. Merci, bonne sieste, à bientôt.
Vous avez quoi, 3, merci. Bientôt ?
Ah ouais, on va bientôt.
Jean-Louis, délégué à la sécurité des ouvriers dockers.
Ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes ces senteurs, tout est en contact direct avec la marchandise, on a perdu tout ça. À part quand on faisait des empotages ou du dépotage. Mais tout ça, ça s'est perdu, le contact direct avec les sacs, enfin, toute la marchandise. Et puis, tout ce qui faisait l'environnement, comme je vous disais tout à l'heure, l'invitation au voyage. c'est froid un conteneur. C'est une boîte métallique, c'est impersonnel, c'est devenu. C'est vrai qu'on ne voyait plus que ça, on ne voyait plus que des conteneurs. Et ça a complètement changé l'environnement du port. C'était à l'identique partout. Alors qu'avant, vous aviez des différents navires, des péniches, c'est devenu impersonnel, quoi. C'est plus le port qu'on a connu. Et on a été, nous, les gars de ma génération, à la croisée des chemins. On a connu le port de nos pères, de nos grands-pères. Et bon, c'était un travail pénible, hein, mais il y avait toute cette convivialité qui s'est trouvée un peu perdue parce que, de par le gigantisme aussi des navires, hein, les gars se trouvent séparés. Quand vous avez des gars qui sont à 30 mètres au-dessus, avant, on pouvait s'interpeller d'un cargo sur le quai, c'était plus facile que maintenant. Je veux dire, c'est énorme. Quand on pensait que le France c'était le plus grand bateau à l'époque, ou même après le, comment il s'appelait, c'est pas le Batidus, le grand super tanker qui faisait 400 ou 500 000 tonnes, qui accostait à Antifer. On s'est dit jamais il y aura des porte-conteneurs qui atteindraient cette taille. Mais si. Il y a des porte-conteneurs qui font 400 mètres de long maintenant. C'est des trucs de fou. Ils peuvent même plus rentrer dans l'écluse François 1er, qui était la plus grande écluse du monde en 73. Et nous, on a connu le port à l'échelle humaine. Et maintenant, c'est devenu l'empire des machines et des navires gigantesques. C'est plus le même port.
La première grande évolution, ça a été l'écluse François 1er, avec l'ouverture des darses de l'autre côté, la darse de l'océan et puis le quai de Bougainville avec les conteneurs. Ça a été une évolution majeure. Parce que les conteneurs étaient traités effectivement de l'autre côté de la darse. Avant, ils étaient traités sur les quais conventionnels. Donc, au début, le conteneur, c'était un type de marchandise qui était stocké sur les quais conventionnels. Hein. Et puis après, il y a eu des terminaux spécialisés où les bateaux venaient. Ça a été le cas de tout ce qu'il y avait après l'écluse François 1er, et puis le quai d'Asie-Osaka, qui étaient les premiers quais. Auparavant, le conteneur n'était pas une marchandise atypique. C'était un peu traité comme le reste. Le travail était fait par des grues. Au début, c'était des grues. Hein, donc les cadences étaient très, très basses. Et c'était d'ailleurs un des grands reproches qui étaient faits, c'était que nous, on travaillait à des cadences qui étaient de 9-10 conteneurs, alors que dans les ports du Nord, ils étaient à 20, entre 20 et 30 conteneurs.
Christian, employé au service fret-import de la Compagnie Générale Transatlantique, puis au service contentieux de la GMP.
Quand le conteneur est arrivé, les navires n'étaient pas adaptés. C'est-à-dire qu'on chargeait des conteneurs de 20 pieds, 40 pieds n'existaient pas. Enfin, est venu, mais quelques temps après, on chargeait des conteneurs de 20 pieds avec les moyens du bord. Avec les mâts de charge. Ou Herman Jean Escouvert avec des grues, parce que c'était des grues qui pouvaient soulever 10 tonnes. Donc là, je vais donner un terme technique, on mouflait les grues. C'est-à-dire qu'on prenait deux grues et on les mettait ensemble sur un même conteneur quand ils dépassaient un certain tonnage. Donc on n'avait pas les navires adéquats. On n'avait pas les portiques. On n'avait pas les élévateurs adéquats. Parce que quand on descendait un conteneur dans une cale, il était au milieu de la cale. Il fallait donc aller le mettre sur les côtés de la cale. Alors, on a expérimenté pas mal de choses. On mettait par exemple des planches que l'on enduisait de graisse. Et avec deux élévateurs d'une puissance de 4 tonnes, on poussait les conteneurs dans les côtés. Puis on avait un collègue docker qui avait son pot de graisse, et quand avant que le conteneur, il remettait de la graisse sur les deux planches pour qu'on puisse les pousser les uns après les autres.
Et vous vous souvenez à l'époque du discours de la CGM, ce qu'elle avait comme discours par rapport à l'enrichissement de sa flotte avec des
portes
conteneurs, par exemple.
Le jour où vous parlerez véritablement d'enrichissement de la CGM par rapport à sa flotte, j'ai jamais vu la CGM s'enrichir. Au contraire, je l'ai toujours connue en déficit, pour des raisons qui étaient relativement simples. C'est que la CGM, comme toute boîte d'État, n'avait pas de décision propre à prendre. Quand la Transat voulait ouvrir une nouvelle ligne en disant attention, si on va sur la Chine, c'est rentable. Hein? Il fallait 3 ans avant qu'il y ait la décision. Quand on s'y mettait, c'était foutu. Tous les autres s'y étaient mis avant nous. Alors, ne me parlez pas d'enrichissement de la CGM.
Alors, la CGM a quand même développé sa flotte de porte-conteneurs.
Elle a constitué sa flotte de porte-conteneurs au détriment de tous les autres. Moi, je me souviens, M. Friedman annonçant, je vais faire une flotte de 100 navires. 100 navires. Quand Abraham est arrivé, il en restait plus que 45. Enfin, j'exagère peut-être sur les 45, mais... À partir du moment où il y a eu la containerisation, on a tout le temps été en diminution du nombre de navires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je veux bien admettre qu'en remplaçant, en mettant un porte-container sur les Antilles, par exemple, on remplaçait 5 cargos. Je veux bien, mais comme en même temps on perdait les lignes parce qu'il y avait des concurrents qui se mettaient dessus, la CGM, toujours perdue en nombre de navires. Et la Transat commençait à y voir, à voir clair, malgré le départ du France, ou grâce au départ du France, je ne peux pas dire. On commençait à voir les comptes arriver au moins à zéro. Il n'y avait pas de perte, il n'y avait pas de bénéfice, mais il n'y avait pas de perte. Quand l'État nous a collé les messageries dans les pattes.
La fusion messagerie Transat.
La fusion messagerie Transat a été une catastrophe pour la Transat.